Bonjour à tous et enfin toutes et tous. D'abord, je tiens à remercier à Madame Gâteau le service aussi de m'inviter à venir. Et je suis ravi en tout cas d'être là et que cette opération puisse se mener à bien pour vous jeunes à un mois des épreuves de bac. On va passer une heure et quart, peut-être un peu plus ensemble, sur un thème. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner en termes de contenu, en termes de fonctionnement aussi les uns les autres. Et puis surtout, après, ou peut-être même pendant, si jamais vous avez les moindres problèmes, n'hésitez pas à poser des questions. On est en interactivité ici, je suis là pour ça. Bien, vous entendez? Correctement ou pas là? Oui, sans que ça dérange qui que ce soit après? Non? Enfin, vous entendez. C'est ça l'objectif. Alors, quelques mots sur l'objectif quand même hein, de cette heure ou heure et quart qu'on va passer ensemble. Les choses étaient bien calibrées hein, par Madame Gâteau. C'était de faire en sorte qu'on puisse trouver à travers le programme de première et terminale ES en économie un thème structurant qui permette d'aborder des concepts à la fois théoriques, mais aussi des faits concrets et susceptibles aussi, bien évidemment, pour vous, jeunes de terminale, de vous préparer à l'épreuve de bac. Ces thèmes pouvant éventuellement, en tout cas, faire l'objet d'une interrogation, soit écrite, soit orale par la suite. Donc, à la réflexion, enfin, quand on travaille sur le programme de bac, n'oubliez pas que vous êtes interrogé, vous, en terminale, sur le programme de première et terminale. Je vous le rappelle, comme vous le savez, mais il est quand même bon de le souligner. Vous êtes interrogé sur le programme de première et terminale. Et quand on travaille sur le programme de première et terminale, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de thématiques hein, qui sont des fils rouges hein, sur l'ensemble des 2 années. Et qui sont probables aux examens et aux concours. On parle ici d'examens, donc c'est ce qui va m'intéresser principalement, mais il y a un certain nombre de fils rouges hein, qui transcendent la première, deuxième année, la première et la classe de terminale. Et parmi ces dizaines, une petite dizaine de thèmes, il y en a 3, à mon avis, qui sont susceptibles, à mon sens en tout cas, mais je ne prends pas trop de risques, bien évidemment, il y en a, à mon avis, 3 qui présentent un intérêt particulier. Théorique, pratique, comme vous allez le voir, et qui peuvent très bien en tout cas tomber à l'examen. Je vais vous présenter ces 3, il y en a 2 que je vais présenter très très vite, mais je veux éveiller votre intérêt en tout cas à la lecture d'ouvrages, de cours aussi que vous avez pu avoir là-dessus. Et puis je passerai quand même plus de temps sur le troisième, bien évidemment, qui est le thème de cette heure qu'on va passer ensemble. Il y a à mon sens 3 thèmes. Hein, qui sont vraiment qui permettent de voir si l'élève a travaillé, a compris, qui permettent d'évaluer véritablement un candidat. Il y a 3 thèmes majeurs, à mon sens. Premier thème, c'est incontestablement les conséquences de la crise financière internationale. Bon. Je vous ouvre là des pistes, hein, à vous de voir comment vous pouvez raccrocher des connaissances que vous avez, mais sachez que le thème d'aujourd'hui, c'est un des thèmes parmi plusieurs. Donc, 2, 3 minutes là-dessus. Bon. Premier thème possible, les conséquences de la crise financière internationale. A débuté en l'été 2007, on a maintenant le recul du temps, on a 4 ans. En 4 ans, la thématique a beaucoup évolué. Elle était financière, elle était industrielle, elle était financière il y a 4 ans, elle était industrielle il y a 1 an ou 2. Désormais, la thématique, elle est un petit peu différente, elle est beaucoup plus monétaire. Et depuis un an et demi, sachez, j'ouvre une parenthèse là-dessus, sachez que les sujets de bac sont toujours posés au mois de décembre, janvier, février. Au mois de février, tout est bouclé. Autrement dit, pour vous, élèves, sachez que l'actualité qui s'est passée depuis, qui se déroule depuis janvier 2011, a fort peu de chances de tomber. Et que véritablement le cœur des sujets, l'actualité en tout cas qui forme véritablement en tout cas le cœur des sujets, c'est très probablement l'actualité de l'année 2010. Mieux encore, probablement du deuxième semestre 2010. Or, que s'est-il passé depuis juillet-septembre 2010? Eh bien, il y a le G20, hein, la France prend la présidence du G20 à Séoul en octobre. On parle alors communément de la guerre des monnaies, On parle de la sous-évaluation du yuan, la sous-évaluation du dollar. On parle éventuellement d'une sortie de l'euro, enfin des monnaies de l'euro, de l'éclatement de la zone euro. On parle éventuellement de la sortie de la Grèce, du Portugal, des mécanismes monétaires. Vous voyez bien que ça, il y a une thématique extrêmement lourde, théorique, pratique, à mon sens passionnante. Vous, jeunes qui faites de l'économie maintenant, première terminale, enfin, probablement terminale pour la plupart d'entre vous, si vous poursuivez, je ne peux que vous le conseiller, des études d'économie par la suite, sachez que c'est l'une des grosses problématiques des 4-5 années qui vont arriver. C'est une évidence. Vos années d'université ou de classe préparatoire dans les années qui vont venir seront en tout cas mobilisées par une problématique, une thématique qui sera la thématique monétaire internationale. C'est évident. Bon, alors ça, c'est le premier thème, à mon avis, qui peut être important à travailler particulièrement pour vous. Mais j'en parle pas aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête à tout moment. Deuxième thématique intéressante, je vous montrerai là encore toutes les ramifications qui peuvent y avoir. Ce que l'on peut greffer autour de ça. La deuxième thématique, c'est une thématique sur l'État. Bon. L'État, dans un cas très particulier, qui est l'État dans la crise des finances publiques, bien évidemment. C'est-à-dire la crise contemporaine, depuis 10-15 ans des finances publiques, fait que les fonctions, le rôle, les missions de l'État, de manière générale, se trouvent complètement renouvelées depuis quelques années. La question d'il y a deux jours sur que faut-il faire du RSA, par exemple, bah, c'est l'une des vraies questions qui se posent globalement. On peut, sans aucun jugement de valeur, c'est une interrogation qui se pose dans la crise des finances publiques. Et c'est vrai qu'il faut lire l'État, l'intervention, les missions de l'État au travers de finances publiques qui sont sévèrement dégradées. Et donc, la question centrale, et je pense toujours là à vous qui avez une dimension économique et une dimension sociologique à mener dans votre programme, l'une des vraies interrogations, c'est est-ce que l'État va toujours continuer à s'occuper de fonctions ou bien est-ce qu'il va les remettre au marché? Et on pense là, enfin je pense particulièrement ici, aux fonctions sociales. On va parler, on aura l'occasion d'en parler, je l'espère, en tout cas un petit peu des questions dans le thème qui sera qui est le nôtre, des questions de sécurité sociale et de la dépendance. Il est fort probable que la dépendance soit pas le fait des finances publiques telles qu'on peut l'entendre actuellement, mais elle soit le fait du financement s'opère par une initiative plus privée, donc globalement relevant du marché. Alors, voilà, il y a, à mon sens, ces deux thématiques sont des thématiques intéressantes. Il faudrait peut-être que dans le mois qui vient, vous soyez quand même assez vigilant à ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets modernes, hein, ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais il y a une vraie actualité brûlante. Bon. Et puis, troisième thématique, c'est celle qu'on va aborder là maintenant, c'est la thématique... Donc, plus général, des revenus, la formation des revenus, comment se former les revenus, la redistribution des revenus. C'est-à-dire on va aborder des questions de finances publiques, hein, qui sont dans le cœur de vos programmes de première et terminale. Et puis, bien évidemment, à partir de là, la question des inégalités économiques, sociales, culturelles éventuellement, hein, qui sont là aussi... Un moyen de se référer là aussi au programme. Si j'ai choisi ce thème-là et pas les autres, parce que les autres sont techniques, le premier est très technique, d'accord ? Donc je pense qu'à niveau terminal, ça peut paraître peut-être un peu, délicat à poser. Le second est spéculatif. Osera-t-on poser un sujet sur... que peut remettre au marché l'État ? Vraie question, mais délicate à poser. Par contre, cette thématique-là, elle est à l'interface entre le théorique et le pratique. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on peut citer. Il y a des faits d'actualité, en tout cas extrêmement importants. On est à l'interface aussi, on fait le pont ici entre la microéconomie et la macroéconomie. C'est-à-dire en gros, les comportements individuels et les comportements de groupe. Alors, on est en plein, alors là... complètement en plein dans votre champ, champ d'études. On est aussi entre l'économie pure et la sociologie. Donc on est là, je trouve que ce thème-là est véritablement, en tout cas, un thème assez, assez structurant, et c'est en ce sens que, voilà, il a eu ma préférence au détriment des autres. Bien, alors, je ne suis pas là pour vous donner un cours, hein, vous avez eu, vos profs vous en ont fait, vous avez lu des bouquins probablement là-dessus, ou du moins en tout cas des articles. Ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de vous ouvrir des pistes sur des concepts que vous ne voyez peut-être pas comme étant des concepts intéressants, la question elle-même. Ben, quand on corrige des copies à tout niveau où on soit, que ce soit au niveau du bac ou post-bac à des concours, on dit souvent aux étudiants, aux candidats, qu'ils n'ont pas nécessairement vu l'ensemble du sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont focalisés sur des points intéressants, mais pas nécessairement, ils n'ont pas brossé suffisamment large, en tout cas, le sujet, ce qui conduit à avoir des notes qui ne sont pas toujours à la hauteur des espérances des candidats. Mais ils ont traité le sujet, mais pas tout le sujet. Donc c'est plutôt ce que j'ai envie de faire ici, c'est de vous ouvrir des pistes sur des concepts que vous connaissez, mais dont vous ne voyez pas nécessairement, en tout cas, le lien avec, avec le sujet. Alors, quand on rentre dans le cœur du sujet, on s'aperçoit qu'il y a quand même des points particulièrement intéressants. Il y en a en gros quatre. Il y a quatre parties qu'on pourrait faire, hein, si vraiment on avait du temps, en tout cas à consacrer de manière structurée à ça. Mais il y a quatre points intéressants. Le premier, je vais revenir longuement hein, sur chacun de ceux-là, mais je voulais présenter rapidement, c'est la question de la formation des revenus. Comment se former les revenus ? Et par là même, c'est la question de la valeur ajoutée, la formation de la valeur ajoutée et la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, en quoi est-ce que la formation des revenus et la répartition de la valeur ajoutée a une incidence sur les inégalités ? En gros, ben vous êtes économiste, vous avez fait déjà au moins 2 ans d'économie, on va parler des revenus primaires là-dedans. Vous voyez bien, partage de la valeur ajoutée, formation des revenus, ce sont les revenus primaires. Bon. Deuxième question, là je descends dans la répartition, hein, dans ce que l'on fait des revenus, j'avance. Hein. Deuxième élément important, c'est la redistribution. Voilà. En quoi est-ce que la redistribution est-elle un moyen de réduire les inégalités ? Est-ce qu'elle le fait ou pas ? Comment elle le fait ? Bien ou mal ? Donc voilà, c'est la question de l'efficacité économique et de la justice sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre les deux et comment est-ce que ce lien peut-il être effectué ? Bon. Troisième question intéressante, et là on va rentrer là dans le détail un peu technique, c'est la dimension fiscalité. D'une part, dans la redistribution, il y a deux aspects qui sont les prélèvements d'un côté et puis véritablement les transferts de l'autre. Donc, il y a tout un bloc intéressant de points étudiés sur la fiscalité. En quoi est-ce que les impôts sont des éléments de correction des inégalités ou pas ? À quoi sert l'impôt ? Qu'est-ce qu'un bon impôt ? D'accord ? Si vous avez une réponse à apporter à cette belle question de qu'est-ce qu'un bon impôt, dites-le parce que c'est délicat hein, quand même. Très très belle question en tout cas, à mon avis, de bac. Hein. À une époque où on va réformer la fiscalité, enfin ça fait 30 ans qu'on souhaite réformer la fiscalité, la question de savoir dans quel sens il faut le faire, dans le sens de la création d'un bon impôt, c'est quand même pas inintéressant en tout cas. Bon. Alors, il y a des aspects de la fiscalité, et puis aussi, il y a tout un aspect qui est l'aspect transfert, c'est-à-dire la redistribution véritablement. En quoi est-ce que la protection sociale est un moyen de réduire les inégalités ? Est-ce qu'elle le fait ou pas ? Y a-t-il un accès à tous les domaines de la protection sociale, un accès équitable à tous, toutes conditions sociales ? Voilà, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Et puis, quatrième élément, et là, je vais insister à la fin là-dessus, parce qu'il ne faudra peut-être pas l'oublier, et je pense que beaucoup d'élèves, beaucoup de candidats auraient oublié de le traiter, c'est une dimension internationale du sujet. Parce que quand on voit froidement la question comme ça, redistribution, formation des revenus et inégalités, si on zappe en gros l'aspect redistributif, mais formation des revenus et inégalités, il y a une dimension sociale qui s'impose, en tout cas de fait. C'est-à-dire qu'on peut simplement exposer ainsi. Est-ce que depuis 20 ans, en gros, la formation des revenus au niveau national et la répartition des revenus au niveau international, a conduit à réduire des inégalités. Est-ce que la mondialisation réduit les inégalités ou pas? D'accord. Alors, c'est les questions de la convergence, hein, c'est le thème de la convergence des économies. C'est le thème aussi de l'émergence des économies qui peut être évoqué ici. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler ici. Alors, je n'ai pas l'ambition de rentrer dans le détail de tout, bien évidemment, mais c'est intéressant en tout cas de lancer des pistes à vous à mordre là-dessus, d'accord, pour éventuellement, par-devers vous, chez vous, creuser un certain nombre de domaines sur lesquels je voudrais... je vais simplement présenter rapidement les choses. Alors, premier point... Première grande partie, si vraiment on voulait structurer cela, c'est la question relative, en fait, le problème relatif à la formation des revenus et le partage à valeur ajoutée. Bon, formation des revenus, partage à valeur ajoutée. On est ici très très en amont du circuit économique. Hein, on produit, on crée des revenus, on crée de la richesse, et cette richesse sert, en fait, à rémunérer les facteurs de production. Voilà. Donc, parler de la formation des revenus et de parler de la répartition de la valeur ajoutée, c'est évoquer en quelque sorte un côté pile et un côté face d'une même pièce. D'accord ? Parce que la valeur ajoutée n'est rien d'autre que la création de richesse, mais cette valeur ajoutée, elle est après affectée. D'accord, à la redistribution, à la rétribution des facteurs de production. Bon. Autrement dit, ce qui est intéressant ici d'étudier, c'est comment se forment les revenus, comment est-ce que la répartition des revenus s'effectue-t-elle, selon quels mécanismes économiques, d'accord, et qu'est-ce qu'il en est dans la réalité contemporaine de la France, ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse économique de la formation des revenus, qui est complexe, hein. Il y a en gros... des approches multiples, d'approches macroéconomiques, des approches plus microéconomiques. Donc, je ne vais pas rentrer là dans le détail, vous avez ça dans les ouvrages. Sachez que tous les grands auteurs des grands classiques français et anglais, Jean-Baptiste C., Anglais, Smith, Ricardo, etc., ont tous parlé de la formation des revenus. Si on était, non pas en 2011, mais il y a un siècle et demi, il est évident que l'une des questions majeures à laquelle il faudrait que l'on réponde, c'est comment se forment les revenus. Ça a intéressé les économistes pendant un siècle, ça nous intéresse un peu moins maintenant, parce que les choses sont plutôt figées, plutôt arrêtées, mais c'est un thème qui était intéressant pendant très longtemps. Donc sur la formation des revenus, il y aurait, enfin, tous les économistes, tous les grands économistes, tous les grands courants de pensée ont eu des travaux porteurs. Que ce soit les économistes classiques, que ce soit, on va dire, les marxistes, que ce soit les keynésiens, y compris des auteurs beaucoup plus contemporains. Je pense à Kaldor après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des travaux qui ont continué encore à s'effectuer là-dessus, de moins en moins, mais en tout cas, il y a la littérature économique assez lourde derrière tout cela. Tout ceci pour dire que la question de la formation des revenus, c'est une question qui est traitée depuis longtemps et sur laquelle il y aurait quand même, quelques éléments intéressants à dire ici. Je voudrais en dire deux particulièrement. C'est que la formation des revenus, elle est le fruit soit des mécanismes de marché, soit en gros de la répartition du fait des forces en présence. Soit cela relève de la macroéconomie, soit cela relève de la microéconomie, soit des forces de marché, soit des groupes sociaux. D'accord. On ne peut pas trancher, il n'y a pas une bonne réponse à apporter parmi l'une ou l'autre. Il y a deux visions alternatives, je dirais, des choses. Et on peut, deuxième élément, cristalliser véritablement la formation des revenus à travers le partage de la valeur ajoutée. Il y a là un élément, dans le cas de la France, intéressant à évoquer, le partage de la valeur ajoutée entre salaire, intérêt, rente, profit, qui sont les quatre éléments qui composent la valeur ajoutée. Hein, si on fait un peu de comptabilité nationale, ceci, la valeur ajoutée rémunère les facteurs, travail, capital, terre, et puis un quatrième dont on ne sait pas vraiment exactement ce qu'il est. Le travail est rémunéré par le salaire, le capital est rémunéré par l'intérêt, en gros, les ressources naturelles sont rémunérées par la rente. Et puis, il y a un quatrième Quatrième revenu, le profit, dont on se demande toujours qu'est-ce qu'il rémunère. Est-ce qu'il rémunère un facteur? Est-ce qu'il rémunère autre chose qu'un facteur? Il y a beaucoup de travaux faits là-dessus. Il rémunère le risque. Il rémunère l'innovation. Il peut rémunérer beaucoup de choses, en tout cas le profit, mais ce n'est pas une rémunération de facteur. Bon. En fait, quand on parle de la répartition de la valeur ajoutée, on parle essentiellement dans le langage courant des économistes, on va dire à ce niveau-là, au-delà bac plus 4, 5, on pourra voir les choses différemment. Mais quand on parle de répartition de la valeur ajoutée, on parle essentiellement de la répartition salaire-profit. La répartition salaire-profit. Quelques mots, vous avez dû probablement le voir, ça je crois en classe de première, mais quelques mots importants là-dessus. Dans le cas de la France, hein, la répartition salaire-profit, elle a connu depuis les années 70 une évolution assez forte. Bon. Pour vous dire, de mémoire, en 70, la répartition salaire-profit, c'était en gros 65% de salaire, 65% de salaire, 35% de profit. C'était du 65-35 en 70. Le grand basculement s'opère durant les années Mitterrand. D'accord ? Tout début des années 80, basculement, on assiste en fait à un recul du poids des salaires dans la valeur ajoutée, puisqu'on est actuellement à un niveau étal depuis en gros une quinzaine d'années. On passe de 65 pour les salaires à 53, hein, un peu plus, en gros 55. On perd quasiment 10 points, pardon, 57. On passe à 57 actuellement, on perd 7 ou 8 points. 7 ou 8 points sur l'ensemble de la valeur ajoutée, c'est considérable. D'accord ? On est sur du 57-43 actuellement. 57-43 actuellement. Voilà. C'est-à-dire que, ça, c'est intéressant à étudier, ceci. C'est-à-dire que globalement, le poids du salaire dans la valeur ajoutée a régressé. Ça a des incidences, ceci. Enfin, ça peut s'expliquer. Enfin, je dirais, avant d'en voir les conséquences, ça peut s'expliquer. C'est la désyndicalisation, d'accord, qui fait que le poids syndical étant plus faible, la pression sur, en gros, le système productif pour rémunérer les salariés est peut-être moins forte. C'est aussi la libéralisation totale de l'économie qui fait que les salaires sont moins régulés maintenant qu'ils l'étaient auparavant, en tout cas sur des mécanismes qui sont de nature complètement différente. Hein, on parle effectivement quand même d'une formation assez décentralisée des salaires. Les grilles des salaires ne sont pas les mêmes partout dans toutes les entreprises et bien évidemment pas dans toute la France. En tout cas, il y a au moins là deux raisons majeures qui font que le poids des salaires a baissé. Mais je voudrais quand même dire ceci, c'est qu'au-delà de ce chiffre-là, qui est du 57-43, il y a un bémol à ajouter, ceci, et qu'on oublie souvent de dire dans les cours, dans les ouvrages, parce que c'est marquant cette diminution de 6 ou 7 points. Mais il faut quand même rajouter un bémol. C'est que si la part du profit a augmenté, une partie de ce profit-là, il est aussi redistribué aux salariés sous des formes différentes, sur des dispositifs différents. Donc les salariés, mais pas tous les salariés, peuvent bénéficier d'une partie du profit des firmes. D'accord ? Il y a des dispositions particulières, notamment dans les grandes entreprises, qui ne concernent pas les PME. En fait, sont laissés de côté, d'une manière générale, les salariés des PME, qui ne bénéficient pas parce que les entreprises ne sont pas cotées, ne sont pas, et le profit, par exemple, n'est pas redistribué, ne leur est pas redistribué, le plus souvent en tout cas. Donc les salariés des PME ne sont pas en général concernés par l'accaparation d'une partie du profit des firmes, et puis les salariés du public, bien évidemment, puisque l'État ne fait pas de profit. Qu'est-ce qu'on pourrait capter à partir de là? Absolument rien. Donc il faut quand même bien voir que même si la part des salaires diminue, il faudrait pouvoir réintégrer une partie des profits dans ce qui revient en fait aux salariés. Bon. D'autre part, deuxième élément intéressant qu'elle m'a observé ici, c'est que le profit n'est pas accaparé pour le plaisir par l'entrepreneur qui va partir aux Bahamas, c'est pas ça. Une partie part aux impôts, donc globalement à la collectivité, et une grande partie sert à l'autofinancement, donc il est réinvesti. Elle est réinvestie, cette autre partie. Donc elle sert à l'entreprise et indirectement elle sert aussi aux salariés. Bon. Mais il est vrai que l'augmentation de la part de la valeur ajoutée affectée au profit explique les bulles, hein, les fameuses bulles spéculatives, hein, bulles Internet, hein, les années 90, bulles immobilières les années 2000, bulles des matières premières en ce moment, ça peut éclater à tout moment, mais voilà, il y a une utilisation en tout cas de ces profits qui peut être en tout cas conduit à, comme ils sont importants, à des montées, à des créations de bulles. Voilà. Alors, ça, c'est le premier aspect. Où sont les inégalités ici? Ben, elles sont nombreuses, en réalité, les inégalités. L'inégalité, elle est déjà dans la répartition entre le salaire et le profit. Mais après tout, bon, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Véritablement, entre le 57-43, bon. Il y a une inégalité entre salariés, quand même, cette répartition. Ces 57%, ils ne sont pas équitablement répartis. Bon. On pourrait discuter, on y reviendra un peu tout à l'heure plus précisément, entre salariés du privé et du public, salariés des grandes entreprises et salariés des PME. On imagine bien que la répartition n'est pas également favorable à tous les types de salariés. Donc il y a là, il faut bien voir que les inégalités naissent, les inégalités économiques et sociales, naissent pour beaucoup de la formation des revenus et du partage très en amont de la valeur ajoutée. Je m'intéresse ici, en fait, à ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus de facteurs. Bon. Pour ne parler que, pour ne faire un focus que sur les seuls ménages. Bon. Les inégalités, notamment de salaire, pas que sur les ménages, mais encore sur les salariés, les inégalités de salaire, les inégalités de revenus primaires, pardon, des ménages, c'est... En France, en ce moment, de revenus primaires de 1 à 8. Voilà, entre 1 à 7 et 1 à 8. Bon. Quand il y a la question de savoir est-ce que c'est excessif ou pas, c'est un tout autre problème. Quand on interroge les Français, un micro-trottoir, mais bon, un peu sérieux quand même, enfin, c'est pas sorti du Monoprix, mais bon, il y a des études qui sont faites là-dessus, pour savoir ce que les Français pensent des inégalités. D'une manière générale, majoritairement, les Français disent « la France est un pays inégalitaire ». Quand on leur demande d'estimer quel est le niveau d'inégalité, eh bien, ils disent spontanément, en termes de revenus primaires, hein, la seule chose qui nous intéresse, véritablement, c'est ceci, hein, l'inégalité en France, elle est en gros de 1 à 5. Et les Français jugent l'inégalité excessive. Si on leur disait que l'inégalité n'est pas de 1 à 5, mais de 1 à 7 ou 1 à 8, vous imaginez un petit peu. Donc non seulement on dit que la France est non seulement nous percevons la France comme un pays inégalitaire, mais on ne soupçonne pas le niveau d'inégalité de revenus primaires que nous avons en France. Ce qui était véritablement, en tout cas, un trou pour nous. D'accord ? Bien. Donc l'écart, l'inégalité, il est en France, en termes de revenus primaires des ménages, de 1 à 8. Voilà la base. Deuxième point, deuxième temps, là j'avance dans le circuit économique et ce que l'on peut faire de la valeur ajoutée. Donc je suis en deçà, je pars des revenus primaires et je vais arriver aux revenus secondaires. D'accord ? Bien. Deuxième étape, donc la formation des revenus secondaires, c'est-à-dire les revenus issus de la redistribution. Bon. Pour parler en termes de chiffres, très clairement, les revenus, les écarts de revenus secondaires en France pour les ménages sont de 1 à 4. Voilà. On passe d'inégalités de 1 à 8 à des inégalités de 1 à 4. Bon. C'est-à-dire qu'on réduit en gros la redistribution des revenus qui est composée à la fois des prélèvements obligatoires et puis des transferts, subventions, aides, etc., de manière générale, eh bien, la redistribution réduit les inégalités de moitié. Il faut bien voir qu'en face de ça, l'État prélève 47% des ressources. Entre 45 et 47, on peut discuter du chiffre. C'est-à-dire que globalement, l'État prélève presque la moitié des revenus pour ne réduire les inégalités, pour ne réduire les inégalités que de moitié. Voilà. C'est-à-dire que là, on peut vraiment se poser la question de l'efficacité du système redistributif en France. Pour être très clair là-dessus, quand on fait des études internationales, et pas la peine d'aller chercher bien loin, mais quand on fait simplement sur les pays développés, on prend États-Unis, on va prendre l'Europe continentale, bon, bien. Il y a deux grands types de pays. Au regard de la redistribution et des prélèvements à la redistribution, il y a deux grands types de pays. Il y a des pays qui ont une fiscalité élevée, pays scandinaves, Danemark typique, Suède typique. Mais ces pays qui ont une fiscalité élevée ont des inégalités faibles. Voilà. Premier groupe de pays, pays à fiscalité élevée et à inégalité faible. Puis il y a un deuxième groupe de pays qui sont des pays à fiscalité faible, les États-Unis, par exemple, quelques chiffres ici pourraient vous en faire part enfin de pression fiscale, de prélèvements obligatoires en tout cas, qui sont relativement faibles. Les États-Unis sont un pays à fiscalité faible et à inégalité forte. Voilà. Deuxième groupe de pays, pays à fiscalité faible et à inégalité forte. La France est dans un intermédiaire assez peu enviable, qui est un pays à fiscalité forte et à inégalité forte. Nous cumulons deux handicaps majeurs. D'où la question de la redistribution, de l'efficacité de la redistribution. Comment peut-on avoir une fiscalité forte et des inégalités, elles aussi, fortes ? Vrai problème. Ça fait, je vous le rappelle quand même, on a dû vous le dire, vous avez dû le lire probablement, ça fait, notre système fiscal est un système ancien. Il a un siècle. En quelque sorte, nos grands impôts, mis à part la TVA, qui est un impôt relativement moderne, et que nous avons exporté partout dans le monde d'ailleurs, mais nous avons un système fiscal qui est un système ancien. Voilà. Ça fait depuis 45, on va dire, que globalement, on souhaite réformer, rénover la fiscalité française. Bon. Le grand soir fiscal que tous les nouveaux présidents nous appellent de leur vœu et souhaitent engager, et il vaut mieux l'engager assez vite, ceci dans les 3 mois ou 6 mois, parce qu'après c'est trop tard, ce grand soir fiscal, il peut faire très mal dans le cas de la France. D'accord ? C'est-à-dire que globalement, vers quelle fiscalité doit-on aller en France ? Vous voyez bien qu'on ne peut plus, dans les comparaisons, quand on fait des comparaisons sociales, on ne peut plus alourdir la fiscalité en France. Par contre, on peut la modifier. D'accord ? Et là, bien évidemment, c'est les questions qu'on va soulever tout à l'heure, des questions de fond, hein, sur que faire de l'ISF, que faire du bouclier fiscal. D'accord ? Ce sont des vraies questions qu'on a posées depuis 2007, hein, le bouclier fiscal quand même, mais qui sont vraiment des éléments qui sont intéressants à poser en ce moment. Vous savez que le bouclier fiscal va disparaître en 2012, hein, il continue en 2011, va disparaître en 2012. L'arrêt du bouclier fiscal, qui était d'une évidence absolue, hein, son arrêt était bien évidemment appelé des vœux de beaucoup, de gauche, de droite, des économistes quasiment unanimement, en tout cas, eh bien, l'arrêt du bouclier fiscal, la suppression du bouclier fiscal, va nécessairement avoir d'incidence sur l'impôt sur les grandes fortunes et sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur notre IRPP à nous. Il est bien évident que dès lors qu'on touche à un élément de la fiscalité, on modifie toute la structure fiscale. Est-ce qu'un homme politique, un président, est prêt à se lancer dans une réforme fiscale d'envergure qui est très souvent, en tout cas, une véritable usine à gaz, dont on ne connaît pas les incidences ? Voilà. Ça, c'est une vraie interrogation, en tout cas, à poser. Donc là, on a, au niveau de la redistribution des revenus ici, un souci majeur qui est le souci de l'équité. Voilà. Le débat qu'on a dû probablement engager avec vous en classe, et c'est celui-ci, la vraie interrogation de fond, c'est de savoir comment sortir du dilemme crucial entre efficacité économique et justice sociale. Voilà. Comment peut-on s'en sortir ? Est-ce que la fiscalité est un moyen de s'en sortir ou pas ? Voilà. Est-ce qu'on peut, en rénovant la fiscalité et en modifiant quel impôt, en tout cas, accroître la justice tout en maintenant, en tout cas, une efficacité économique suffisante ? Voilà, en tout cas, le débat sur lequel on reviendra tout à l'heure. Bon. Je vais revenir sur la redistribution, parce qu'il y a, quand on rentre dans le détail, deux grands types de redistribution ici. D'un point de vue méthodologique, on fait la différence entre la redistribution horizontale et verticale, première typologie, hein, qui est la grande typologie que tous les ouvrages reprennent, redistribution horizontale, redistribution verticale, et deuxième typologie, redistribution par l'État ou par les collectivités locales. Je vais très très vite aborder le second, parce qu'en fait c'est le moins intéressant pour nous, en tout cas ici, hein, pour les classes de terminale, ça peut l'être par la suite, mais pas vraiment en tout cas pour nous. D'une manière générale, il y a un désengagement de l'État dans beaucoup de domaines de la vie économique et sociale, et une prise de responsabilité plus massive des collectivités locales. Si bien que les collectivités territoriales, communes, départements, régions, jouent un rôle croissant dans la redistribution. Voilà. C'est vrai des aides aux familles, c'est vrai des aides par exemple aux lycées, qui ne relèvent pas nécessairement de l'État mais des collectivités territoriales. La plupart des aides aux familles sont des aides qui sont versées par des collectivités territoriales. Ce désengagement, il est majeur depuis quelques années. Ça pose la question de la fiscalité locale par rapport à la fiscalité nationale aussi. Deuxième typologie bien plus intéressante, c'est la redistribution horizontale par rapport à la redistribution verticale. Bon. Redistribution horizontale, c'est la redistribution d'individus qui ont, de personnes, d'agences économiques qui sont de même niveau hiérarchique, on va dire, une redistribution qui s'opère au-delà des revenus perçus. La redistribution horizontale, c'est la redistribution des biens portants aux malades, des actifs et des inactifs. La finalité véritable de la redistribution horizontale, c'est de financer les besoins minima des individus, santé, éducation, justice, les grandes fonctions régaliennes, on va dire. Donc voyez bien que cette redistribution actif-inactif, malade bien portant, c'est ce qui assure véritablement la cohésion sociale. Voilà. Elle est, cette redistribution horizontale, première en tout cas véritablement, elle est structurante dans la société, c'est elle qui donne du lien dans la société. Deuxième redistribution, la redistribution verticale, redistribution donc qui s'attache à transférer des revenus entre des personnes qui, des individus, des agences économiques qui ont des niveaux de revenus différents, c'est la redistribution des riches aux pauvres, hein, tout simplement, cette redistribution verticale. Alors c'est celle qui véritablement assure, qui a un objectif, la réduction des inégalités. Voilà. Alors, intéressant de voir qu'est-ce qu'on privilégie dans la France contemporaine, redistribution horizontale ou redistribution verticale. Et donc pour avoir véritablement un diagnostic assez fin sur cette question-là, il faudra étudier tout à l'heure la fiscalité. Est-ce que tel impôt, l'impôt sur les personnes physiques, est-ce que la TVA, est-ce que l'impôt sur les sociétés, est-ce que les impôts sur le patrimoine assurent une fonction de redistribution efficace ou pas? Voilà toute la question qu'on peut être amené effectivement ici à se poser. Alors, voilà, vous voyez bien que quand on descend, quand on va de l'amont à l'aval, quand on va de la valeur ajoutée aux revenus primaires, des revenus primaires aux revenus secondaires, la question des inégalités se pose en permanence et continue toujours effectivement à se poser ici, sans qu'elle soit résolue. Certes, à mesure que l'on descend dans la circulation de la richesse, les inégalités de revenus ont tendance à se réduire. Petite parenthèse quand même sur le niveau d'inégalité depuis quelques années. On a posé la question à certains économistes il n'y a pas très longtemps de savoir est-ce que depuis 2007, vous voyez bien pourquoi je parle de 2007, est-ce que depuis 2007 les inégalités en France se sont accrues ou ont de revenus, je dis bien, sont accrues ou pas? Il y a deux réponses absolument alternatives à cette question-là, malheureusement. Il n'y a pas de tendance lourde. Les données de l'INSEE, mais qui sont publiées toujours avec un peu de retard, on a toujours un an de retard dans les données de l'INSEE, montrent que globalement, les inégalités de revenus n'auraient pas eu tendance à s'accroître depuis 2007. Bon. Elles n'ont pas décru pour autant, mais elles ne se sont pas accrues. Voilà. On attend la publication de l'INSEE toujours, disons, au second semestre de l'année. Là, je vous fais part de ce qui s'est écrit sur l'année 2009, début 2010. 2009, début 2010. Mais voilà, la tendance, en tout cas, est plutôt celle-ci. Il n'y a pas d'accroissement des inégalités de revenus en ce moment. Je ne veux pas dire pour autant que si on s'intéresse à d'autres critères que les revenus, les inégalités n'apparaissent pas. Bon. Alors là, je me suis polarisé sur les seules inégalités de revenus. Il y a d'autres types d'inégalités que le revenu. Bon. Et je vais m'intéresser à certaines autres. Inégalité homme-femme. Bon. Autre aspect du problème, quand même. En quoi la redistribution des revenus peut-elle affecter les inégalités homme-femme? Si on s'intéresse à, en croisant revenus et puis genre, bon, en France actuellement, les femmes perçoivent en moyenne, un revenu entre 15 et 20% inférieur au revenu masculin. Bon, j'ai bien en moyenne. Mais là, on compare des choses qui ne sont pas nécessairement comparables. On ne compare pas deux populations ayant le même capital humain, le même niveau. Bon. Pourquoi ? Parce que si vous, jeune fille, vous avez un bagage, vous aurez un bagage, un capital humain équivalent à celui de vos homologues masculins, et d'ailleurs probablement supérieur d'après les études qui sont faites. Je suis désolé pour les jeunes garçons, mais en général, les filles poussent plus loin leurs études que les garçons. Le capital humain est peut-être plus élevé chez les filles jeunes que chez les garçons. Ça n'est pas nécessairement le cas pour des populations qui sont plus anciennes. D'accord ? Donc c'est 15 à 20% d'écart entre hommes et femmes est en passe de se combler. D'accord ? Pas brutalement, mais à l'échelle d'une ou deux générations, l'écart va en tout cas être amené à se réduire. La fonction publique ne fait pas de différence entre hommes et femmes, heureusement, et l'écart dans la fonction privée, du fait des jeunes générations formées qui arrivent sur le marché du travail, eh bien l'écart est en passe de se réduire. Voilà, plutôt une bonne chose. Jeune fille, continuez à faire vos études jusqu'au bout, d'accord ? C'est comme ça que vous aurez la chance de faire mentir ces statistiques qui sont plutôt honteuses quand même. Bon. Troisième type d'inégalité, inégalité de patrimoine. Bon. Alors là, ça se cumule, les inégalités. Et là, on est déjà dans un tableau encore moins réjouissant que les inégalités liées aux revenus. 10% de la population française, à 7% exactement de la population française, détient 50% du patrimoine. 7 détient 50. Bon. Je pourrais dire 1% détient, je crois que c'est 27%. Enfin, voilà. 7% de la population détient 50% du patrimoine. 50% de la population détient, je crois, 12% du patrimoine. Voyez bien que plus, si on s'intéresse non pas au flux, mais au stock, c'est-à-dire non pas aux revenus, mais au patrimoine, les inégalités vont en croissant. Bon. D'où la question de l'impôt sur le capital. Quand même, il ne faut pas oublier une chose. Le premier impôt sur le capital qu'on a eu en France, c'est Mitterrand 81. Les premiers grands débats à la Chambre des députés sur faut-il créer un impôt sur le capital, c'est 1881. Il a fallu un siècle en France pour créer un véritable impôt sur le capital. Et qui d'ailleurs n'a pas duré longtemps, puisque en 85, l'impôt sur les grandes fortunes, l'IGF, a disparu. Et ça n'est qu'après qu'on a créé l'ISF, impôt de solidarité, l'ES de solidarité sur la fortune. Donc je vous rappelle, on a dû probablement vous le dire, que la finalité de l'ISF, c'était de financer le RMI. On ne s'est pas rendu compte, un, que les recettes de l'ISF n'étaient pas à la hauteur des espérances, deux, que les dépenses de RMI, On n'a pas imaginé que les dépenses de RMI seraient aussi importantes qu'elles l'ont été. D'accord ? Si bien que globalement, l'ISF n'a pas rempli pleinement son rôle de distribution, de transfert des riches aux pauvres. Un bon impôt, c'est ça en réalité. Si on veut faire, créer la cohésion sociale, du lien, le pacte républicain de 45 appelait quand même à cela, l'ISF répondait exactement à ce principe-là. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas atteint cet objectif de pouvoir financer un minimum social par la fiscalité. C'est d'ailleurs. Et vous voyez bien que la suppression du RMI et le remplacement par le RSA a posé là, et on l'imaginait bien que la suppression du RMI pour un produit tout à fait différent, pour un dispositif tout à fait différent, pouvait être amenée à se poser la question un jour ou l'autre de la de l'opportunité de la suppression du RSA, d'ailleurs. Bon. Alors, il y a deux questions qui sont soulevées ici. L'ISF, faut-il un impôt sur le patrimoine et à quel niveau ? D'une manière générale, ce que l'on dit en France, c'est que l'ISF a des taux marginaux d'imposition élevés, mais une base faible, une assiette, qu'on appelle une assiette faible. C'est-à-dire ce qui est la source du prélèvement, en tout cas, n'est pas large, mais les taux sont marginalement relativement élevés. Les études récentes, les contributions récentes, je pense à Thomas Piketty, il y a peu de temps en tout cas, militent en faveur, mais bon, c'est un homme de gauche aussi, donc on est là sur des logiques qui sont différentes. L'alternative à cela, c'est plutôt de dire, il vaut mieux une assiette large, d'accord, et des taux faibles, plutôt qu'une assiette faible et des taux élevés. L'étude qu'a fait Thomas Piketty et d'autres, c'est un groupe de travail à trois, a montré que, la justice sociale était quand même peut-être plus respectée, en tout cas plus atteinte, et deuxièmement, l'efficacité économique était plus grande. Voilà. Mais ça, là, c'est une révolution fiscale, celle-ci. Donc la question de l'ISF est posée. Vous savez qu'en ce moment, on entendait ça encore il y a 2-3 jours, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de l'impôt de solidarité sur la fortune est posée crûment. Est-ce qu'il faut le supprimer, l'ISF ? Et d'ailleurs, si on le supprime, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Si on supprime l'ISF, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dit « l'impôt sur le patrimoine est stupide », je crois que le terme il a été utilisé par... tel quel, c'est crûment, je crois que le terme a été celui-ci, l'impôt sur le patrimoine est stupide, par contre ce qui est légitime, c'est d'imposer les revenus du patrimoine. Or je vous rappelle que les revenus du patrimoine, ils sont quand même déjà imposés dans l'impôt sur revenus des personnes physiques. D'où la question de savoir si l'on supprime l'ISF, est-ce qu'il ne faut pas par là même modifier la totalité de la structure de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ? Véritable usine à gaz. Vous voyez bien, c'est pas fait. D'accord ? La suppression de l'ISF n'est pas faite et le remplacement par des barèmes d'imposition sur les ménages pour l'impôt sur revenu des personnes physiques, en tout cas, est loin d'être évidente. D'accord ? Mais l'idée qu'après tout, tous les types de revenus sont frappés, c'est ça l'équité. D'accord ? Tous les revenus doivent être frappés. Revenu travail, revenu capital, revenu patrimoine par là même doivent être frappés. Sur la fiscalité sur le patrimoine, il y a deux problèmes qui se posent. C'est la fiscalité sur l'épargne, d'une part, d'accord ? C'est-à-dire, faut-il fiscaliser les dividendes et comment faut-il les fiscaliser ? D'accord ? Et comment fiscaliser les profits des firmes ? Voilà, ça c'est un vrai problème, en tout cas, qui va être amené à se poser. Je reviens maintenant sur les différents types d'inégalités existantes à un moment donné. Il y a une inégalité dont on ne parle pas suffisamment. Et je m'adresse à vous, jeunes, parce que c'est vous qui êtes là, la clé de l'avenir. D'accord ? Et d'autres encore moins que moi. Il y a une autre inégalité. C'est l'inégalité entre générations. Voilà. C'est probablement la bombe à retardement, celle-ci, qui va un jour ou l'autre nous exploser dans les doigts, à vous, probablement plus qu'à moi aussi, peut-être malheureusement, mais qui est la bombe suivante. Quand on interroge les Français pour savoir, sur le fait de savoir, est-ce que vous pensez vivre mieux ou moins bien que la génération qui vous a précédé, vous, jeunes, d'après les enquêtes qui sont faites, vous dites « je vivrai moins bien que mes parents, mais je vivrai mieux que mes grands-parents ». Voilà, en gros, ce qu'on s'accorde à reconnaître comme étant la réponse. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, d'accord ? J'espère que non. Si vous le pensez, vous êtes peut-être aussi dans le vrai. Donc, vous voyez bien que c'est assez délicat. C'est extrêmement difficile à mesurer. Les niveaux de vie comparés de cordes, de générations différentes, à des moments différents, c'est extrêmement difficile à effectuer, ce genre d'analyse. Mais il y a du vrai là-dedans. Et rien que de le percevoir, que de le penser, c'est qu'il y a du vrai malgré tout. Autrement dit, le conflit, c'est un conflit intergénérationnel. Ce n'est pas entre vous intragénérationnel, c'est intergénérationnel. Bien évidemment, au-delà du niveau de vie que vous pouvez avoir par les revenus que vous allez percevoir, et pouvez vous dire, mais moi je percevrai moins d'argent que mes parents, peut-être j'aurai un revenu plus faible que mes parents. C'est vrai que si vous commencez dans la vie active en faisant un stage, deux stages, pas très bien rémunérés, 80% du SMIC, pour après avoir un SMIC, pendant plusieurs années, peut-être que vos parents n'ont pas eu ça, ou peut-être moins bien, mais peut-être aussi n'ont pas connu en tout cas cette épreuve-là que vous pouvez peut-être éventuellement connaître, et vous pouvez être fondé à dire « oui, je vivrai moins bien que mes parents » ou que mes aînés qui ont 10 à 15 ans de plus que moi, sans nécessairement mes parents. D'accord ? Donc cette perception, elle est juste. Bon. Mais c'est la comparaison difficile. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment... On a des éléments de fond, mais voilà, ce n'est pas très très tangible. Par contre, il y a une véritable bombe à retardement ici, c'est la dette. La grande inégalité que je veux vous montrer, c'est une inégalité qui tient à la dette. Bon. La dette, vous savez, la durée moyenne de la dette en France en ce moment, l'échéance moyenne, enfin, la durée moyenne de la dette, c'est 9 ans. La dette moyenne est à 9 ans. D'accord ? Le taux de la dette n'est pas un taux très élevé en ce moment, heureusement, mais indépendamment du fait que le taux ne soit pas très élevé, le coût de la dette ne soit pas très élevé, parce que les taux d'intérêt sont faibles, il faut pouvoir comparer le coût de la dette au taux de croissance économique. Or, le coût de la dette est supérieur au taux de croissance économique. Donc, on est dans une situation économique qui est, vis-à-vis de l'endettement, une situation extrêmement dégradée. La dette, pourquoi je dis que c'est un problème générationnel ? 9 ans, ce n'est pas une génération. Hein. En économie, on dit qu'il y a, c'est 30 ans une génération. En gros, il y a 3 générations par siècle. Bon. Mais cette dette, dans 9 ans, elle ne sera pas remboursée. C'est bien évident. Elle sera prolongée, la dette. Elle va faire des petits, cette dette-là, malheureusement. Il y a des générations spontanées là-dedans. Cette dette-là va grossir. Probablement qu'elle va grossir. Bon, on peut peut-être la réduire, mais le prix de la réduction est considérable. D'accord ? Cette dette-là, elle est importante. 1 500 milliards d'euros en ce moment. D'accord ? 1 500 milliards d'euros en ce moment, si vous divisez par 60 millions, ça vous fait 25 000 euros par tête. Par 60 millions, il n'y a pas 60 millions d'actifs. Il y en a la moitié d'actifs. En gros, même moins de la moitié d'actifs. J'ose pas faire le calcul, ne le faites surtout pas. C'est explosif. D'accord ? C'est-à-dire que le jeune enfant qui naît en ce moment, on peut discuter du montant, mais globalement, l'ordre de grandeur importe là. Le jeune enfant qui naît en ce moment, il naît avec dans son berceau une dette d'un montant colossal. Or, qu'est-ce que c'est que la dette ? C'est le refus de vivre, créer de la dette, c'est refuser de faire des sacrifices maintenant, mais accepter que la génération suivante, dans 9 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, fasse des sacrifices à ma place. C'est ça la dette. Je ne veux pas mal vivre, mais j'accepte que la génération qui vient, vous, jeune, vivrez moins bien que moi. C'est pour ça que la perception que vous pouvez avoir, que vous vivrez peut-être moins bien que vos parents, qui est, je pense, contestable, cette perception-là. Mais elle s'appuie sur cette idée que la dette est importante. Bon. La vraie inégalité, elle tient à la dette. Pourquoi ? Parce que cette dette-là, vous allez, vous, la rembourser. Moi, je la rembourserai. J'ai, en gros, une dizaine d'années de vie active devant moi. Mais vous, vous en allez avoir, quand vous rentrez sur le marché du travail, 42, hein, quand même, je vous le dis, nettement plus que moi, hein, d'accord ? Bon, donc c'est vous qui allez rembourser la dette, en grande partie, j'y contribuerai à la hauteur de ce que je peux faire, mais vous allez vous aussi contribuer à la hauteur de ce que vous pouvez avoir comme revenu. Bon, autrement dit, la question, elle est que vous allez rembourser probablement à ma place un montant important de cette dette-là. Comment peut-on rembourser une dette ? C'est là où l'inégalité est profonde. Il y a quatre façons de rembourser une dette. On emprunte. Très bien, tu as l'air là, vous dites, vous, c'est pas moi qui vais payer, ça sera mes enfants qui vont payer. Ben, mes petits-enfants, si vous voulez. Très bien, c'est le jeu du mistigris, d'accord ? Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui ait le mistigris, puis il paye pour les autres, d'accord ? Vraiment, vous bottez en touche, les autres rembourseront à ma place. C'est ce que l'on fait en ce moment, d'accord ? Sur vous. Mais vous pouvez très bien faire pareil. Après tout, c'est bonne guerre. D'accord ? Premièrement, voilà. On va s'endetter pour rembourser. Deuxièmement, l'inflation. Deuxième façon de rembourser une dette, c'est l'inflation. Meilleur moyen de rembourser une dette. Le problème, c'est que l'inflation, c'est profondément inégalitaire. Tout le monde n'est pas protégé contre l'inflation. Seuls des ménages à revenus indexés et en général à haut revenu trouveront les moyens de ne pas subir l'inflation. Malheur à ceux qui ont des revenus faibles, non indexés ou mal indexés, qui subiront l'inflation. Or, voyez bien que l'inégalité, elle est criante ici, sur le statut qu'on peut avoir et sur le niveau de revenus qu'on peut avoir. Si vous avez des revenus élevés, vous pouvez les protéger probablement. Un ménage smicard, probablement en tout cas, aura du mal à protéger ses revenus. Très bien. Vous voyez bien, deuxième moyen, l'inflation va créer de l'inégalité. Troisième moyen, l'épargne. D'accord ? Vous allez dire, je vais rembourser en épargnant. Bon, d'ailleurs, c'est une théorie économique derrière tout ça, en disant que pour nous, ménages, avec un horizon temporel long, si je m'intéresse non pas à quelques 10 ans ou 20 ans, mais à un horizon d'une ou deux générations, il y a une indifférence entre, en gros, payer maintenant ou payer plus tard. Si je ne paye pas, mes enfants paieront. À l'échelle de deux générations, c'est pareil. D'accord ? C'est cette fameuse indifférence qu'il y a, comme la théorie de l'indifférence d'ailleurs, hein, de l'équivalence en tout cas entre les deux. Mais pour avoir de l'épargne, encore faut-il avoir des revenus. Donc si l'on dit « je rembourserai ma dette grâce à de l'épargne », encore faut-il que vous composiez, vous, dès maintenant, enfin, pas vous tout de suite, mais que les jeunes épargnent une partie de leurs revenus pour rembourser la dette contractée par leurs parents. D'accord ? Voyez bien que là, l'inégalité, elle existe encore. Non. Puis, quatrième façon de rembourser une dette, c'est bien évidemment, en tout cas, par l'impôt. Par l'impôt. Si l'impôt était équitable, si l'impôt était juste, alors on pourrait dire effectivement le meilleur moyen de régler la dette sans déliter le corps social, c'est effectivement de rembourser cette dette par la fiscalité. Mais comme l'impôt est ce qu'il est, et comme l'équité n'est quand même pas ce qui, disons, qualifie le mieux notre fiscalité, eh bien il est à craindre en effet que les inégalités naissent par le remboursement, par le remboursement de la dette par la fiscalité. Une autre inégalité, en tout cas, est ici évidente. Tout le monde n'a pas... des ménages à revenus élevés peuvent, par des dispositifs complètement légaux, en tout cas, échapper à certaines formes d'impôts. On le sait bien. Ça fait la une des journaux de temps en temps. C'est pour certains, parfaitement scandaleux. Sauf que c'est légal, hein, en tout cas il y a des formes légales pour échapper à l'impôt. Alors, voyez bien que la grande inégalité, à mon sens, c'est l'inégalité de la dette. Voilà. Or, voyez bien que ça vous paraît peut-être loin du sujet, mais à mon avis, c'est cet élément-là qui est probablement la bombe à retardement. D'accord ? Ce qui revient à dire une chose, si vous êtes vous, élève des lycées publics, Vous, pour vous, la scolarité, elle est gratuite. D'accord ? Bien sûr, vos parents, enfin globalement, vous ne payez rien pour la scolarité si vous êtes dans un lycée public. Sauf que vous allez payer dans les années qui vont venir quand vous serez actif, la scolarité qui n'a pas été payée maintenant. La dette, c'est en gros un chèque. Un chèque en bois que vous devrez, que d'autres générations devront honorer. Donc vous voyez bien que l'accès aux services publics gratuits pose un véritable problème dans le cas de l'endettement. Y a-t-il un accès gratuit aux services publics dans un État qui s'endette lourdement? Ben, la réponse, elle est non. Ce que vous ne payez pas maintenant, nous le paierons, vous le paierez plus tard. Voilà, c'est terrible, en tout cas, à dire. Ainsi, à mon sens, la grande inégalité, elle porte là-dessus. Bon. Troisième grand point, l'efficacité redistributive de l'impôt. J'allais peut-être un peu plus vite là-dessus. L'efficacité redistributive de l'impôt et des transferts. Je vais prendre impôt après impôt. Vous savez que le grand impôt en France, celui qui est la vache à lait en tout cas, c'est l'impôt indirect, d'accord, essentiellement la TVA. On a une fiscalité d'un autre âge à avoir une TVA aussi qui rapporte autant qu'elle rapporte. On a une fiscalité qui n'est pas du tout dans les clous d'une fiscalité européenne. Hein, on parle d'harmonisation fiscale, on est très loin d'avoir une harmonisation fiscale en Europe. Globalement, la TVA... Voilà comment on peut poser la question. Est-ce que la TVA est un impôt juste ou pas ? Voilà. En fait, on s'aperçoit que la TVA est un impôt qui est dégressif. Il n'est pas un bon impôt, pour répondre très rapidement à la question que je posais. Qu'est-ce qu'un bon impôt ? Un bon impôt, c'est un impôt progressif, neutre, c'est-à-dire qui ne modifie pas les comportements des agents et qui est globalement accepté par la collectivité. Voilà. Progressif, neutre, accepté par la collectivité. Ça, c'est un bon impôt. La TVA est un impôt qui est dégressif. On s'aperçoit que la part du revenu d'un ménage titulaire de revenus faibles affecté à la TVA, donc la part du revenu d'un ménage à revenus faibles affecté à la TVA, est supérieure à la part de revenu affecté à la TVA pour un ménage à revenus élevés. Autrement dit, plus on a des revenus élevés, moins la part de notre revenu consacré à la TVA est forte. Plus en fait elle diminue. C'est le contraire même d'un impôt qui est juste, la TVA. De ce point de vue-là, de l'équité fiscale. Hein. En moyenne, en France, on consacre 10% de notre revenu à la TVA. C'est 12% pour un ménage à revenus faibles, c'est 7% pour un ménage dans les déciles supérieurs. Dans la frange de population à revenus élevés. Franchement, c'est le contraire même d'un bon impôt, et c'est surtout le contraire de la finalité originelle de la TVA, qui, par des modulations de taux, devait plus lourdement frapper des ménages à revenus élevés et plus faiblement des ménages à revenus faibles. D'accord ? Ben, c'est tout le contraire qui se passe. Or, vous entendez quand même les discussions depuis 2-3 ans, le débat depuis 2-3 ans, et de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas pour des raisons de compétitivité entre la France et l'Allemagne, par exemple, ou entre la France et la Chine, par exemple, réduire le poids des cotisations sociales et accroître la TVA. C'est le débat, c'est le concept de la TVA sociale. D'accord ? Dans la TVA sociale, il y a quand même TVA. Hein. Il y a social, mais il y a quand même TVA. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a du social, il y a la TVA sociale. En ce sens que derrière ce dispositif, on va créer de l'emploi, on va moins délocaliser. C'est pour ça que le terme TVA social, si vous écoutez un peu les hommes politiques, ils répugnent à utiliser ce concept-là, et c'est un impôt anti-délocalisation, hein, nous dit-on comme sous-titre. Bon, ça a du sens. Bon. Autrement dit, la TVA est un impôt qui est dégressif. C'est donc globalement un impôt qui n'est pas juste. L'IRPP, très rapidement, l'IRPP, impôt dont on peut discuter du caractère juste aussi. Vous savez que la moitié des ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques. la moitié est exonérée. Légalement, je ne parle pas de la fraude, ça n'a rien à voir là-dedans. La moitié, légalement, ne paie pas d'impôt sur eux des personnes physiques. Cette part de ménage qui ne paye pas l'impôt sur les personnes physiques est en croissance. Les hommes politiques exonérant dans le temps toujours plus de ménages. D'accord ? On est passé de 60% de ménages qui étaient frappés par l'IRPP à 50% actuellement. Globalement, quand un ménage sur deux ne paie pas l'impôt sur les personnes physiques, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si la cohésion sociale existe toujours ou pas. Certains pays ont fait un choix inverse, de dire il faut payer un impôt dès le premier euro perçu, mais très très faiblement, pour avoir à l'inverse un impôt progressif. En fait, l'IRPP en France, notre impôt sur le revenu, globalement, est payé par peu de ménages, mais à des taux marginaux élevés. Si vous écoutez les débats en ce moment, même encore aujourd'hui même, attendez ça ce matin, on pense supprimer l'ISF et créer un taux marginal d'imposition encore plus élevé. Voilà, c'est exactement la question. Voilà. Vous voyez bien que sur l'IRPP, on pourrait discuter, là aussi. Impôt qui est fraudé, mais moins que la TVA, hein, je tiens quand même à vous le dire. Bon. Troisième type d'impôt, l'impôt sur le patrimoine. La France a un taux d'impôt sur le patrimoine supérieur à la moyenne européenne. L'impôt sur le patrimoine, c'est en gros les droits de succession. Bon, pour aller vite, c'est les droits de succession, principalement les droits de succession. C'est-à-dire, nous payons plus de droits de succession que la moyenne européenne. Par contre, il y a de très fortes exonérations de droits de succession entre parents et enfants. Ce qui veut dire que la France est le pays des grandes familles. On dit qu'aux États-Unis, en trois générations, toute la richesse est brassée. En trois générations, ce n'est pas le cas en France. Voilà. C'est-à-dire les Rockefeller, ça vit trois générations, un siècle et demi maximum, mais ce n'est pas les grandes familles françaises. Voilà. Donc là, on peut dire que l'impôt sur le patrimoine ne joue pas, enfin, joue un rôle de ponction, effectivement, de revenus, mais ne joue pas un rôle de redistribution des richesses. Pas totalement. Voilà, j'ai fait un tour de la fiscalité ici rapide. Bien évidemment, il y a des débats là qui vont probablement agiter les hommes politiques d'ici un an, savoir vers où aller. D'accord ? Une seule piste, en tout cas, apparaît comme étant, souhaitée par la plupart des économistes. C'est que globalement, plus il faut accroître l'assiette, il faut que de plus en plus de ménages paient l'impôt sur le revenu, mais globalement à des taux plus faibles. Voilà, c'est ça, en gros, la grande tendance qui se dégage, c'est quand même celle-ci. Bon. Autre point, rapidement, là j'ai parlé de la fiscalité, j'aurais parlé de l'autre aspect de la redistribution qui est les transferts des caisses de sécurité sociale, par exemple, de la protection sociale vers nos ménages. J'ai simplement lancé ici des pistes qui, intéressent la question des inégalités. Bon. Il y a trois dossiers importants en ce moment qui sont, dans l'actualité depuis un ou deux ans, qui sont la politique familiale. Est-ce que la politique familiale... quel rôle pour la politique familiale en ce moment ? Est-ce que c'est une politique nataliste ou pas ? Est-ce qu'il faut aider les familles ? Toutes les familles sans condition de ressources ou pas ? Vous savez que vous avez un thème sur la famille. Hein. Attention, parce que la famille, d'un point de vue de l'économie, c'est un dossier extrêmement délicat. La politique familiale est un dossier extrêmement délicat. La question, on est en ce moment, dans les années 2010, à un moment de l'histoire très particulier. Depuis 1945, la politique familiale est une politique plutôt nataliste, à aider les familles. Désormais, la politique familiale est une politique plus tournée vers certains types de familles. D'accord ? Je donnais un exemple. Jospin voulait supprimer les allocations familiales pour des ménages à revenus très élevés. Voilà. C'était déjà un premier élément de rénovation de ce qu'est la politique familiale. Voilà. Je porte aucun jugement de valeur sur la pertinence ou pas. C'est pas du tout le problème. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est un vrai thème dont on discute en ce moment. Et je pense que c'est un. On a dû probablement vous en parler aussi en classe. Deuxième élément, la santé. Bon. Deuxième dossier. Je donnais deux éléments en tout cas intéressants sur la santé. Y a-t-il un accès équitable à la santé? La santé pour tous ou pas? C'est la question de la CMU. Hein, vous êtes au courant probablement en tout cas de ces minima, et la CMU fait partie en tout cas du filet de sécurité le plus ténu là, en tout cas en ce moment en France. Depuis 2000, on est en train de remettre en cause la CMU pour certains types de populations. Là, l'accès à la santé pour tous est l'une des grandes interrogations qui se posent. C'est le désengagement de l'État dans le domaine de la santé. Bon. Deuxième élément, la dépendance. On a dû vous en parler probablement en cours. Nicolas Sarkozy en a parlé comme étant le grand chantier à venir. Une usine à gaz, très certainement en tout cas, qui accouchera de peu de choses. Hein, le dossier accouchera malheureusement peut-être de très peu de choses. La dépendance échappera probablement au domaine de la sécurité sociale pour être reporté à celui des associations, des mutuelles, des assurances. Voyez bien que la brèche ici, en tout cas, est créée. D'accord ? On parle d'un cinquième risque, une cinquième branche, mais qui n'existera probablement pas. D'accord ? Donc là, pour revenir à la question sur État-marché, très probablement, en tout cas, que le problème se pose ici, hein, d'une répartition entre État et le marché très, très différente de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la santé. Incontestablement, après le dossier des retraites, dont on a fait passé des mois et des mois à discuter, quasiment un an à discuter, j'ai toujours pensé que le dossier des retraites était le premier dossier d'une longue série de dossiers bien plus pénibles et bien plus lourds. Le deuxième dossier, qui sera celui des 2012, c'est la réforme du système de santé. Et là, bon courage. On a fait le plus simple en commençant par la retraite. Le plus dur est à venir. Les grands choix sont les choix d'avenir qui vont se faire sur la santé et pas sur les retraites. D'ailleurs, on a bricolé sur les retraites pour... le dossier sera réexaminé dans 3-4 ans. Mais sur la santé, il y a urgence. Il y a urgence et la rénovation sera radicale. Voilà. Dernier point en 2 minutes. Je vais terminer parce que je pense que je dois commencer à être long. J'ai peut-être des questions aussi à poser. Dernier grand point qui pourrait être abordé ici, c'est la question internationale du sujet. Bon. Distribution des revenus au niveau international et inégalité. En quelques mots là-dessus, bon. Pour tous les économistes libéraux, classiques, on peut prendre des auteurs bien connus de vous probablement, Smith, Ricardo... Stuart Mill, probablement, dans l'économie internationale, on a dû vous citer ces noms-là très, très certainement. L'échange et l'ouverture est une opération de type gagnant-gagnant. Tout le monde gagne à l'échange. Voilà la grande leçon des économistes classiques. Tout le monde gagne à l'échange. Smith, Ricardo démontrent exactement ceci. Péniblement pour Ricardo, plus facilement pour Smith. Mais en tout cas, voilà ce que démontrent les grands auteurs classiques. Bon. Ça va se prolonger dans les travaux du XXe siècle aussi. D'accord ? Un certain nombre d'économistes au XXe siècle vont montrer que ce qui était vrai dans la logique ricardienne et la logique smithienne est aussi vrai dans une logique du XXe siècle, dans une configuration un petit peu différente. Donc ce qui était vrai au XIXe l'est aussi, en tout cas, au XXe. On a même écrit un ouvrage sur la mondialisation n'est pas coupable. Hein, n'est pas coupable de quoi ? De tous les maux, chômage, déficit, etc. Bon. Donc, il y a tout un ensemble d'auteurs de type classique qui militent en faveur de cette idée-là, que l'on gagne la mondialisation. Qui gagne ? Eh bien, à la fois les pays du Nord, on va dire, pour faire simple, et les pays du Nord et les pays du Sud. D'ailleurs, on démontre même que la mondialisation permet aux ménages, aux salariés des pays du Sud de voir leur salaire croître plus que ne croissent les salaires des pays du Nord. L'exemple typique, c'est bien sûr une partie de la Chine. Toute la partie Shenzhen, Shanghai, bien évidemment, dans laquelle les revenus, vous le savez probablement, depuis un an, ont augmenté 30%. Au point que beaucoup d'entreprises se demandent si ça sert encore à quelque chose, en termes de compétitivité, à rester en Chine ou pas. Et peut-être faut-il délocaliser vers un pays qui n'a pas encore connu cet accroissement de salaire dans les pays, dans les entreprises ateliers du sud-est asiatique. D'accord ? Donc l'idée selon laquelle l'opération d'ouverture, la mondialisation serait une opération gagnant-gagnant, ça se démontre par la théorie économique, et puis ça n'est pas complètement faux, en tout cas d'un point de vue des faits. En réalité, derrière cette question-là, il y a une question majeure qui est-ce qu'il y a une convergence des pays ? On a dû vous en parler très probablement ceci, pour ça que je vous rappelle là des choses connues, que je raccroche à des choses que vous avez dû probablement lire ou étudier en cours. Est-ce qu'il y a une convergence des économies ? C'est la vraie question qu'on se pose depuis en gros 2 siècles. Quand on est chinois, on se dit, bien évidemment, la Chine reprend la position qu'elle avait il y a 3 siècles. Et qu'elle a perdue du fait des guerres de l'opium, des guerres coloniales, etc. Voilà. Et qu'elle a récupéré, dont elle récupère la place, en gros, de leader du monde en 2030, première nation en termes de PIB en 2030. On disait 2050, on a révisé, ce sera probablement 2030. Elle reprendra la place qu'elle a occupée il y a 2 siècles et demi. Ce rattrapage, il s'est effectué en gros en une génération, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Unique. Donc la question de la redistribution des revenus, oui, on montre en effet que la mondialisation permet une redistribution des revenus au profit des pays du Sud et en partie au détriment des pays du Nord. Et là, il y a une vraie question sous-jacente qu'on a dû vous exposer probablement en cours, qui est le rôle de l'immigration. Immigration et marché du travail. En quoi est-ce que l'immigration a pu avoir un effet sur les salaires du Nord et les salaires du Sud ? C'est une vraie question passionnante à étudier, celle-ci. Je vous mets en garde, parce que c'est le genre de questions qu'il faut pouvoir problématiser et qu'il faut aussi ne pas traiter d'un point de vue passionnel. L'immigration peut être traitée plus passionnelle. Ça, j'en parle en termes de migration et pas d'immigration, mais c'est vrai que c'est un problème extraordinairement intéressant à étudier. En quoi est-ce que les migrations internationales affectent la répartition des revenus au niveau global ? Alors, il y a 2 tendances, en fait, et je terminerai là-dessus. Une tendance qui est de dire, en fait, la mondialisation réduit l'écart entre les pays du Nord et les pays du Sud. Si vous faites le hit parade des 10 pays... il y a 20 ans, en termes de PIB, 10 pays maintenant, 10 pays dans 20 ans, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a une répartition complètement... Il y a un brassage complet qui s'est opéré. Mais deuxième élément de conclusion intéressante, c'est que si les inégalités entre le Nord et le Sud se réduisent, elles se créent au Sud. Voilà, elles se créent dans les pays du Sud. Et si je prends la Chine, ce n'est pas pour rien. C'est que tous les salariés chinois ne voient pas d'augmentation de leurs revenus. Je vous rappelle quand même, pour mémoire comme ça, que le revenu d'un fonctionnaire à Shanghai, c'est 300 euros par mois, d'accord ? Bon, donc on est bien loin de l'écart, vous voyez, qui est important entre Nord et le Sud. Mais quand il est 300 euros par mois pour un fonctionnaire à Shanghai, il est de 200 euros par mois pour un ouvrier du Sud et 200 euros à comparer avec moins de 50 euros par mois pour un paysan. D'accord ? Et les inégalités au sein des pays du Sud s'accroissent à mesure que le temps passe. Voilà. Alors, il y a cet aspect international, moi je trouve passionnant, hein, là, et puis qui, à mon avis, ne doit pas être oublié dans une réflexion portant sur ce thème-là, et qui pourrait être, si vous ne voulez pas y consacrer trop de temps, parce que, disons, c'est pas votre approche, peut-être pas tellement d'éléments de fond, pourrait très bien faire une très très belle conclusion si jamais vous aviez un sujet à traiter là-dessus. Alors voilà, sans aucune ambition, j'ai essayé de faire, voilà, de rapprocher de à la fois de thématiques contemporaines et de points que vous avez pu aborder pendant ces 2 ans, rapidement, hein, on peut en parler beaucoup plus longuement. Je vous laisse la parole. Si vous avez des points, oui, je nomme.
Concrètement, la réforme de la santé vers le privé et vers les marchés, qu'est-ce que oui. ça va donner ?
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler dans le micro ?
Concrètement, qu'est-ce que ça va donner la réforme de la santé vers le privé ? Et est-ce qu'il y aurait d'autres solutions pour garder un système de santé public ?
C'est à mon avis l'une des questions de fond. Je n'ai pas du tout abordé, je ne peux pas tout aborder, mais ça c'est une vraie question de fond. La répartition entre l'État et le marché sur la santé, la ligne de fracture entre les deux va nécessairement évoluer, c'est inéluctable. Là, je ne porte pas de jugement de valeur du tout, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, c'est inéluctable pour deux raisons. La première, c'est que de plus en plus, le risque maladie, enfin, la maladie n'est plus considérée comme étant un risque. La protection sociale couvre des risques. Le risque maladie, le risque que vous attrapiez une angine, voilà, c'est aléatoirement réparti la population. Vous attrapez, vous le passez à votre camarade, etc. Mais c'est aléatoire. Et là, on couvrera ce risque-là. Premier élément d'appréciation, de plus en plus, avec la connaissance de la carte génétique d'un individu, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de maladies qui ne sont plus aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des travaux pour savoir s'il n'y a pas un gène de l'obésité. S'il n'y a pas un gène qui peut conduire quelqu'un à être plus fragile par rapport à des addictions. D'accord ? Le jour où on connaîtra la carte génétique d'un individu, on pourra peut-être se dire, ben voilà, il est porteur sain ou porteur malsain d'une maladie, et donc le risque n'est plus un risque aléatoire. Il est porteur en tant que personne, d'individu, et dans ce cas-là, ce n'est pas la collectivité de prendre en charge le risque, mais c'est à l'individu lui-même. Et c'est là que le marché, en tout cas, probablement sera une des solutions. C'est à mon sens un vrai danger, d'accord ? Là, sur un plan personnel, c'est un vrai danger. Mais la médecine prédictive, en tout cas, va conduire justement probablement à faire modifier cette ligne de fracture qu'il y a entre l'État et le marché. Deuxième élément, il est raisonnable d'imaginer que dans les années qui vont venir, 2013, très très probablement, très très vite, il y ait deux types de couverture. Il y a ce qu'on appelle les petits risques, ce qu'on appelle le risque ambulatoire, d'accord, la maladie courante, l'angine, voilà, toutes ces maladies qu'on peut attraper n'importe quand, qui seront couverts en fait ces petits risques par du privatif, c'est-à-dire par des mutuelles, par des assurances, parce qu'après tout, elles sont pas très invalidantes, d'accord. Et les risques lourds, ce qu'on appelle les gros risques, seront pris en charge par la collectivité. Reste, et vous voyez bien où va être le débat, ce sera de définir qu'est-ce qui est dans l'une des. Enfin, quel type de maladie va-t-on mettre dans le premier cas et dans le second cas, hein ? Bien sûr, l'invalidité, les opérations, les interventions chirurgicales seront considérées comme du risque lourd. Mais il y a des tas d'autres maladies sur lesquelles on peut discuter de savoir si c'est plutôt de l'ambulatoire, du petit risque ou du risque invalidant. D'accord ? Voilà. Donc, il est très clair que dans les années qui vont venir, pour l'instant, je crois que les hommes politiques ont verrouillé le dossier parce que c'est pas le moment de faire une réforme. On l'imagine bien après la réforme de la vieillesse ou des retraites plutôt. La réforme des retraites, c'est pas le moment de le faire. Le deuxième chantier sera extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. C'est-à-dire qu'il y a. Alors, on ne va pas aller vers un modèle américain, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais un modèle qui va séparer, en fait, fondamentalement et d'un point de vue plus philosophique, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un risque ? Qu'est-ce qu'un risque social ? Est-ce que le chômage est un risque ? Voilà, par exemple, est-ce que le chômage est un risque ? Vraie belle question, est-ce que le chômage est un risque ? Est-ce que c'est un risque aléatoirement réparti dans la population ou pas ? Vraie question de fond, ça. Mais ça, on ne fera pas l'économie dans 2 ans, en tout cas, d'une vraie réforme de la santé. Douloureuse, hein, très probablement. Mais a-t-on les moyens ? Vous savez, pour alimenter un peu plus la branche maladie déficitaire, la branche famille qui était excédentaire devient déficitaire, la branche vieillesse est déficitaire, la branche accident du travail est à l'équilibre. Autrement dit, il y avait jusqu'alors... Il y a 2 branches qui étaient déficitaires, il y a 3 branches déficitaires. 3 sur 4. Inutile de vous dire qu'il faut bien un autre tranché. Voilà, et ça sera fait en 2012-2013. Allez-y, profitez-en, profitez de moi là. Je suis là, je suis captif.
Y a-t-il pas un bémol à mettre en ce qui concerne l'inflation et la dette des à venir? Elle sera quand même atténuée. C'est-à-dire que, à cause de l'inflation, les retraités seront. L'écart sera moins grand.
Alors, mais oui, il est évident que l'inflation va réduire le coût de la dette. C'est pour tout le monde. Pas que pour les retraités, pour tout le monde. C'est évident. Le problème, c'est que nous, on est débiteurs, mais il y a des créanciers en face. Et je vois pas, j'imagine mal les créanciers, en tout cas, accepter de bonne grâce de voir leur patrimoine fondre à hauteur de l'inflation. Et la or, on sait quand même aussi qu'en Europe, la maîtrise de l'inflation, c'est l'objectif absolu. Donc, il y a là un peu une contradiction entre l'idée de dire j'allège ma dette par l'inflation, mais je veux surtout pas d'inflation. Donc, inévitablement, nous aurons tous, mais vous aurez tous en tout cas supporté la dette. Hein. Vous n'y échapperez pas, et moi non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut creuser. Hein, chaque thème que je lance comme ça mériterait d'être creusé beaucoup plus à fond. Il y a les littératures économiques, il y a les auteurs qui ont écrit là-dessus. Il y a des réponses plus riches à donner. Là, je suis vraiment un survol rapide, hein, bien évidemment. Jeune homme, à haute voix plutôt, peut-être. Ah non, elles sont assises sur les salaires, les cotisations. Alors, des cotisations assises sur les profits, ça veut dire que globalement, une firme n'aurait aucun intérêt à faire du profit. Et pas sur la valeur ajoutée. Elles sont toutes assises sur les salaires. Ce qui veut dire qu'à mesure que les salaires s'accroissent, les cotisations s'accroissent, et si les salaires ne s'accroissent pas, les prélèvements ne s'accroissent pas non plus. Donc on a beau dire il faut augmenter les salaires, quand on augmente les salaires, il faudra aussi on augmentera aussi les cotisations. Vous savez quel est le montant des cotisations? Vous avez une idée un peu? Hein, sur 100 euros versés en brut à un salarié, une entreprise supporte 130. Et dans certains cas, 180. Un salarié coûte, dans certaines entreprises, en fonction de son revenu, deux fois le coût du revenu qui est versé au salarié, ce qui est considérable. Non, non, bien sûr, sur ce point-là, là, vous dites. Ah, sur les revenus, oui, je suis bien d'accord. Je suis allé au plus, à l'essentiel. Le chômage derrière chacun des éléments à prendre en ligne de compte ici, derrière la santé, derrière la dette, derrière les revenus, la redistribution, c'est évident. Mais il est géré tellement partout que globalement, l'effet sur l'ensemble du mécanisme, en fait, est plutôt relativement neutre. En ce sens que, bien sûr, les taux de chômage sont... Mais la France a structurellement... D'abord, si vous regardez quand même depuis 15 ans ce qui se passe, la France a un taux de chômage qui a du mal à baisser, mais qui n'augmente pas beaucoup. Il oscille toujours entre 7 et 11%. Jamais en dessous, jamais au-dessus. Voilà. C'est-à-dire que la crise, la grande surprise de la crise, c'est que le taux de chômage n'a pas beaucoup augmenté. Et la grande surprise de la reprise des années 90-2000, c'est que le taux de chômage n'a pas beaucoup baissé. Voilà, on a un noyau dur du chômage qui est, qui est structurel. C'est ce qu'on appelle en fait le noyau dur. Enfin, c'est le chômage structurel. C'est pour ça que l'aspect chômage, enfin, le concept de chômage là, il est peu présent dans une analyse comme celle-ci. On pourrait soit le diluer partout, mais je n'ai pas voulu en faire en tout cas une moindre réflexion particulière parce que ce n'est pas moteur en tout cas l'analyse, à mon sens.
Ça veut dire que la dette, elle repose seulement
Si vous voulez parler de la dette, c'est évident que ce n'est pas par 60 millions qu'il faudrait que je divise, mais c'est par 20, un peu moins de 30 millions, 26 millions d'actifs, et parmi ces 26 millions d'actifs, il y en a quand même en gros 3 qui n'ont pas de travail. Enfin, non pas divisé par 100 millions, les 1500 milliards, mais par 23, mais je n'ose pas faire le calcul. Pour les jeunes, je n'ose pas le faire, bien évidemment, parce que là, ça, et puis ça n'a pas de sens. En réalité, ça n'a pas de sens. Que derrière la dette, en face de la dette, on a heureusement, en tout cas, des actifs dont on oublie de parler, mais qui sont bien au-delà de la valeur de la dette. Heureusement que nous n'avons pas que des dettes. L'idée de dire la France est en faillite, c'est d'un point de vue économique rigoureusement faux, c'est-à-dire que nous n'avons que des passifs, mais pas d'actifs. Or, on a des actifs en grand nombre. Et les premiers actifs, c'est quand même bien les salariés. Bah, c'est la production. Voilà, donc, c'est faire fi de tout ce qui est créateur de richesse quand on dit qu'on n'a que du passif. C'est pour ça qu'il ne faut pas affoler les personnes en disant « il n'y a que des dettes devant nous, hein, on a des actifs et heureusement ». Certains passent le bac, là, c'est ça ? Ouais. Courage à vous. Réfléchissez bien à ces trois thèmes que je vous ai proposés. D'accord ? J'espère que ça tombera là-dessus. Ça tombe pas, d'abord, je ne connais pas le sujet, hein, sachez-le. Sinon, d'abord, un, je ne vous le dirai pas. Puis deuxièmement, je ne le connais pas. Mais si j'avais à poser un sujet, et je le pose à des concours, c'est dans ces trois thématiques-là qu'à mon avis, il y aurait forte probabilité que ça puisse être intéresser des concepteurs. D'accord ? Donc travaillez plutôt en ce sens. Pris par le temps à un mois, à votre place, je travaillerai ces trois thèmes. Hein ? C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses.
Merci beaucoup, Rémi. Voilà, c'est bien mérité. Quelques précisions avant de clore cette séance. Les débats sont enregistrés, d'où l'importance du micro. Et vous pouvez réécouter cette conférence sur le site de la BPI, rubrique archives sonores. Autre chose, un petit questionnaire circule. Ça nous permet de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous attendez de ces conférences. Merci de prendre des minutes nécessaires à le remplir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça sera une conférence sur les sciences de la vie et de la Terre. Voilà. À bientôt.